coup, je lève, on a baigné la maison, et scooby-dooby-dooby-doo, bienvenue dans DC Vu d'ailleurs, épisode 18. Et oui, l'épisode 18 qui est un épisode donc enregistré à distance, selon ce principe que nous appelons personnellement dans la team le télépodcast. Voilà, et oui, il a mis énormément de temps à être monté, et j'en suis le premier désolé. Mais voilà, certes, nous sommes début mai pour le moment où ce podcast va être mis en ligne. Mais voilà, nous allons remonter via la magie du montage, et bien tout simplement à cette époque, tout simplement de tout début 2024, puisque dans cette émission, nous allons être tout simplement dans le 2 janvier 2024. Donc on va voir comment DC a commencé cette année, et voilà, normalement, voilà, pour les gens qui lisent ça au moment où, enfin, qui entendre ça au moment où ce podcast sort, sachez que le rythme de sortie va être beaucoup plus élevé et que normalement, on va essayer de rattraper très très vite tout ça. Voilà, voilà. En attendant, nous, on vous laisse avec un super petit podcast avec toute l'équipe, puisque nous avons bien sûr notre sémillant Midnighter, notre petit Nico et notre Sofiane du cœur. Et voilà, et tout ce petit monde, moi-même y compris, vont parler de certains titres, et on va commencer avec le numéro 141 de Batman, et c'est Midnighter qui commence par nous en parler.
Donc je vais vous parler de Batman 141, toujours écrit par Chip Zdarsky et dessiné par Rock Jimenez. Dans ce numéro, Batman s'échappe, Batman découvre que Zurenar a installé sa conscience dans Felsafe, et c'est parti pour la grosse baston. Et c'est à peu près tout, en fait, qu'on retrouve dans ce numéro. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est, une fois de plus, un numéro hyper bourrin, hyper axé combat. En termes d'écriture de Batman, je trouve pas ça hyper intéressant. On a une ou deux pages où on s'intéresse rapidement à ce que fait Dick Grayson, mais une fois de plus, pour le moment, on voit pas trop où ça va mener, parce que c'est la fin d'un arc et que le prochain arc, qui va être le Joker Year One, sera un flashback. Donc voilà, vraiment, une fois de plus, assez déçu du Batman de Chip Zdarsky. C'est vraiment triste qu'on ait ça, hélas. Après, il y a aussi une autre tristesse, c'est qu'en plus, on a un backup qui, une fois de plus, est assez peu intéressant, une fois de plus, centré sur Zurenar et dessiné par Dustin Nguyen. Donc, j'ai un petit peu à dire que malheureusement, j'ai un peu le sentiment qu'on a gaspillé Dustin Nguyen sur ce backup, alors que c'est un artiste formidable et que j'aurais préféré l'avoir sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc voilà, pour moi, Batman, ça reste vraiment une grosse déception en ce moment, en tout cas sa série du même titre, parce que Detective Comics reste toujours aussi génial.
C'est beau, mais c'est pas du tout passionnant. C'est Batman qui affronte Felsafe, possédé par Zurenar pendant tout l'épisode. C'est du déjà lu, oui, ça fait référence un peu au premier acte de Zdarsky. Malgré l'action, je me suis ennuyé. Et en plus, le backup ne sert pas à grand-chose. C'est pas un run qui restera dans les mémoires, ou alors pour les mauvaises raisons.
Que dire de ce numéro ? C'est pas le pire des numéros de Zdarsky, mais voilà, on est sur un numéro qui est très très action, de toute façon, qui suit cette poursuite pendant quasiment tout du long. Voilà, Zdarsky, de toute façon, s'attaque à des choses qui subliment pas. Il va aller chercher dans des références. Dans les références de Morrison, beaucoup. Pour en faire quoi ? Est-ce que ça valait la peine ? Je suis vraiment pas convaincu. Vraiment pas convaincu. Puis alors, ce truc dans la petite histoire là où ce Batman Zurenar, enfin où Zurenar se retrouve dans la psyché de Felsafe avec les autres Zurenar du multivers. Ce délire en plus ça fonctionne exactement comme le monde réel. Enfin, il va péter le bras d'un des autres Batman, d'un des autres Zurenar, machin. Je sais pas. C'est très simplé, on va dire. C'est très simplé. C'est assez décevant, honnêtement. Par contre, c'est très bien dessiné. Clairement, très très joli, toujours. Bien évidemment, on le répétera à chaque fois. Mais ouais, non, sinon niveau histoire, c'est quand même vraiment pas dingue.
Et concrètement, bah, j'ai pas grand chose à rajouter à ce que ont dit mes collègues. C'est très joli, mais franchement, on s'emmerde et ça nous fait chier, en fait, un petit peu de lire ça. Et bah, du coup, on va passer à un autre titre qui, lui, est normalement beaucoup plus intéressant, puisqu'on va passer au numéro 18 de Poison Ivy, avec notre bon Nico aux commandes.
Poison Ivy, numéro 18, continue la bataille du chapitre précédent. Selon Randy, sa puissance permet la victoire momentanée. D'autres zombies viendront. Ivy doit donc produire plus d'antidotes. Cependant, la mission s'avère impossible dans cette petite cabane en milieu des marais. Elle doit se résoudre à demander de l'aide à Batman. Suite à cette discussion, Ivy est atteinte d'horribles crampes au ventre. Elle fait ensuite comme si rien ne s'était passé. Sauf que, un peu plus tard, elle a à nouveau ses douleurs et un monstre dégueulasse sort de son corps. Et ce monstre s'appelle Jason Woodrow. Les dessins sont moins bien qu'habituellement. On a encore droit à Vecchio qui s'occupe de l'art. La fois passée, ça m'avait pas trop dérangé, mais là, je trouvais que l'écart avec Marcio Takara était un peu trop voyant. Le scénario m'a moins passionné que les précédents numéros. Ça traîne un peu pour, au final, réintroduire un méchant déjà vu. Voilà, un moins bon épisode que précédemment, mais j'aime toujours ce titre.
Et donc oui, je suis très très d'accord avec Nico, le dessin est beaucoup moins bien, enfin c'est pas non plus indigent, mais enfin du coup c'est vrai que comme on est habitué à quand même d'énormes choses depuis le début de la série, forcément on est un petit peu déçu, surtout quand on a des cases qui en fait, enfin t'as des pages qui sont étirées en fait pour pas faire grand chose, genre par exemple quelqu'un qui donne un donut à Killer Croc et qui ensuite redonne la main, on est toujours sur le même plan et on est au milieu de la page et il redemande un nouveau donut et donc voilà, enfin voilà, toute la page c'est 5 cases où du coup on voit juste la main de Killer Croc, tu vois, qui demande un donut et voilà, c'est ouais, voilà, c'est peut-être un peu long pour expliquer cette idée là que il voudrait bien en manger plus si possible. Alors, le Jason Woodrow, donc l'homme floronique, oui je sais, l'homme floronique c'est rigolo à dire, mais c'est comme ça, c'est The Floronic Man, donc l'homme floronique, il a une sacrée classe quand même dans son design là, et c'est assez intéressant, et voilà, j'espère juste que vraiment on va passer bientôt à un autre style voilà, qui de narration qui va peut-être être un peu moins décompressé et voir revenir Takara quoi. Voilà, parce que sur ce numéro en tout cas ça manque. Nous avons vu la splendeur de Gotham avec Batman, donc les grandes cités, nous avons vu un petit peu les marais, la campagne avec Poison Ivy. Et bien ce coup-ci, il est peut-être temps d'aller voir au fond des océans, finalement ce qui se passe, notamment ce qui se passe pendant l'event Titans Beast World, puisqu'on va parler du numéro Titans Beast World Tour, ce coup-ci centré sur Atlantis, et c'est Midnighter qui s'en charge.
Maintenant, on va passer au Beast World Tour Atlantis, qui est notre numéro tie-in de l'event Beast World de la semaine. Comme tous les autres numéros Tour, ça se résume à s'intéresser aux conséquences de l'event sur une ville en particulier, et cette fois-ci, c'est donc Atlantis, le royaume sous-marin d'Aquaman. Déjà, point positif, on a un numéro entièrement dédié à Aquaman et sa famille et ses alliés, donc ce qui est plutôt chouette parce que ça fait quand même un moment qu'on n'a pas vu Aquaman dans un numéro solo. Autre côté positif, on a Riccardo Federici au dessin d'une des parties, et c'est à peu près tout au final, parce que ça reste assez décevant. Ça fait lien avant le dernier numéro de Titan, parce qu'on retrouve Garth dedans, mais pour le reste, c'est vraiment un tie-in assez peu intéressant, et il n'y a pas grand-chose à retenir, si ce n'est que quasiment tout le monde se fait plus ou moins infecté. Plus ou moins par la faute de différentes personnes, donc voilà, ça reste toujours sympa de voir Aquaman, parce qu'en plus la partie avec sa partie où Arthur Curry n'est pas si mal écrite que ça, Mais pour le reste, ça reste assez décevant globalement. C'est pas spécialement intéressant. Ou une fois de plus, un tie-in tout à fait dispensable.
Alors déjà, je veux un t-shirt avec écrit Titans Beast World Tour Atlantis. Ça fait t-shirt de tournée, on l'avait déjà dit. Moi, je veux ça. Je veux ça en mode vraiment t-shirt de hard rock ou je sais pas quoi. C'est une anthologie. Je suis pas fan des anthologies à la base, loin de là. Là, au moins, on a une première histoire avec quand même Federici au dessin. Et ça, mine de rien, ben, je dis jamais non parce que bordel, à chaque fois, c'est quand même magnifique. Avec une histoire qui est plutôt pas mal. Où, voilà, on va voir un peu le rapport entre où ça en est, les rapports entre Aquaman et Garf. Et non, vraiment, enfin, c'est pour les dessins. Sincèrement, c'est vraiment pour les dessins que ça vaut la peine. Et à l'écriture, c'est Sina Grace, d'ailleurs. La deuxième histoire, il y a un petit, ça commence vraiment avec un côté très, très référence à aux Dents de la Mer. Très clairement assumé. Bon, c'est, voilà, Vixen, Deadeye et Boomerang qui vont dans une mission qui va leur permettre de recruter Black Manta. On va apprendre quelques petits trucs. L'avantage au moins de ces deux histoires, c'est que c'est quand même relié à ce qui se passe dans d'autres titres. Donc il y a au moins ce truc-là. La troisième, je l'ai trouvée assez inutile, qui tourne pas mal autour de Mera et de Jackson Hyde. Le dessin est pas dingue, j'aime pas la colorisation. Et l'histoire en elle-même est vraiment pas incroyable. En même temps, c'est pas très étonnant, vu qu'à l'écriture, c'est Megan Fitzmartin. Forcément, on va pas s'attendre à des miracles. Mais voilà. Je suis pas fan d'anthologie, mais ne serait-ce que pour profiter du dessin de Federici, ça vaut au moins la peine là-dessus.
Et donc voilà, et comme toujours, bah, sur ce genre de petites tie-in que je ne les ai pas lues, et très franchement, j'ai bien apprécié Beast World sans les avoir lues, je ne pense pas qu'il y ait besoin de les lire pour les apprécier. Mais bon, je fais amplement confiance à mes collègues pour tout simplement me dire ce qu'il en est, et bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'histoires qui étaient vraiment passionnantes. Et en parlant de séries passionnantes, même si bien mon estimée Sofiane me dirait « mais tu es fou », on va parler du cinquième numéro de Fire and Ice, Welcome to Smallville. Et je pense que Sofiane va être un petit peu content parce que je vais un peu plus de son côté. C'est-à-dire que j'ai un peu défendu la série jusque-là, mais là j'ai un gros problème qui tout simplement se pose. Tout simplement, l'avant-dernier numéro de la série est un peu moins intéressant que ce que j'aurais espéré, en fait. Tout est fait pour pousser nos deux héroïnes l'une contre l'autre, mais de façon encore plus artificielle que jusque-là, ce qui est... Enfin, il y avait déjà un petit peu d'artifice, hein, quand même. Est-ce que c'est plus artificiel parce que Fire, elle se laisse faire, elle accepte de prendre le blâme pour des choses qu'elle a pas faites, et du coup c'est moins humoristique, c'est plus misérabiliste? Peut-être que du coup ça passe moins bien, peut-être. En tout cas, ici, le cœur de la série, ou en tout cas la menace principale, arrive enfin. Voilà, le salon de coiffure est en feu, les vilains sont un peu hors de contrôle, puisqu'ils décident de piller la ville. Et enfin, on a la confirmation que Raquel est bien la méchante. Oui, Raquel, alias Rocky, alias la femme qui ne cesse de s'immiscer entre Fire et Ice, et qui cherche à devenir la meilleure nouvelle amie de Tora, celle qui m'escagasse un peu depuis le début. Mais voilà, c'était caché un petit peu derrière la comédie avec les autres personnages. Alors, on apprend que le masque chelou, qu'on a vu dans le numéro 3, qui a fait que, par exemple, un vilain a mangé un autre personnage, ce masque, c'est le dernier fracan de l'île vivante de Kwikwikwi. Une île qui remonte à loin, hein, qui est un peu... pour vous la faire rapide, c'est un peu Krakoa s'il était un peu susceptible, et un Krakoa qui peut décider de se barrer si elle le souhaite et si elle aime pas ta gueule. Comme par exemple quand Booster Gold et Blue Beetle avaient décidé de monter un casino dessus en 1989. Et du coup, l'île, il est arrivé des petits soucis, hein, elle avait été détruite il y a longtemps. Ah non, c'est pas Booster Gold et Blue Beetle qui l'ont fait, je vous rassure. En tout cas, son esprit apparemment s'est réfugié dans ce masque, et du coup, elle contrôle Raquel, puis pratiquement l'intégralité de la ville et des vilains. Et en plus, on découvre qu'il y a un autre vilain, lié au passé d'Ice, qui semble traîner dans le coin, et donc Cliffhanger nous dit qu'il a actuellement Martha Kent en otage. Le truc, c'est que j'apprécie vaguement ce numéro et ce qu'il tente de faire. Mais on est à l'avant-dernier numéro. et les 4 précédents n'ont fait pratiquement aucune construction vers ces menaces. Je veux dire, la menace qui vient du passé d'Ice, je veux dire, j'ai vite fait vu le truc une fois, quoi. C'est tout, en 4 numéros, quoi. Alors oui, on savait que le masque était chelou. Bon, c'était à peu près clair que Rockwell slash Rocky, ça allait être la menace, hein, s'il fallait en avoir une. Mais merde, même pas un flashback ou un truc avec les deux menaces du passé, alors ce serait non seulement facile, mais en plus utile pour l'histoire, parce que ça permettrait de montrer une époque où, par exemple, Fire et Ice ne s'engueulent pas toutes les 10 pages. Bref, je suis toujours très coulant sur un début d'histoire, parce que tout est possible, et il faut voir les fils narratifs et comment ils s'assemblent pour pouvoir juger véritablement. Au début d'une série, je juge les possibilités narratives. Cette série en avait. Pas forcément du genre qui nécessitait une menace super-héroïque, hein, d'ailleurs, hein, ou alors vraiment un background. Mais encore une fois, c'est pas parce que t'as des super-héros que t'es obligé de faire une intrigue super-héroïque. Et ici, le problème, c'est qu'on approche fortement de la conclusion, et les fils narratifs qui sont tissés jusque-là ne correspondent pas à la conclusion vers laquelle le titre file dans le prochain numéro. Absolument pas. De la dizaine de vilains qui a été introduite, et qui a été un peu le cœur quand même de deux numéros, on a seule Linka, la sœur un peu punk de Gorilla Grodd, qui existe encore vraiment dans l'écriture, ce qui nous fait dire que la mise en place de ces vilains, elle est un peu vaine, voire inutile, surtout dans une série aux six numéros, où forcément la place elle compte beaucoup, et il faut aller à l'essentiel, et il faut tailler dans le gras. Parce que il y a des bonnes scènes, hein, Fire qui accepte de se faire engueuler, Martha Kent en otage surprise, Linka dans le bar, mais ça va beaucoup trop vite, alors que les quatre numéros précédents se sont focalisés sur des choses « sans importance », entre guillemets, pour le grand plot. C'est dommage, parce que moi j'aime bien les personnages, j'apprécie assez les voix de certains personnages, et on sent que la scénariste, Joanne Starrer, a des idées, comme le fait que Fire chercherait inconsciemment à se sentir coupable. C'est un développement qui est intéressant pour Fire, mais les idées ne sont pas amenées convenablement, et au vu du hors-sujet que semblent être les numéros précédents, au vu de la conclusion vers laquelle on va, cela s'apparente plus à un gâchis d'idées intéressantes plutôt qu'à une réussite. Dommage, dommage. Ah là 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 là, et oui, voilà, c'est triste pour Fire and Ice. J'aurais souhaité un meilleur destin, mais voilà, il reste toujours des séries super cool. Et ça tombe bien, on va parler du numéro 7 de Shazam, et c'est toi Sofiane qui est aux commandes.
Ce numéro 7 de Shazam, qui s'intitule Shazam versus Black Adam, voit donc toujours Wade à l'écriture, mais au dessin, c'est Suzuka qu'on va retrouver, donc il y a un peu de changement sur le style graphique, c'est un petit peu moins bien, ça reste correct, mais c'est quand même moins bien que du Wade, on va pas se mentir. Le numéro commence sur un combat entre Shazam et une espèce de version bizarro, le Bizarro Captain, comme il se présente, qui est vraiment une version bizarro du coup de Shazam. Avec un combat qui est plutôt fun, où il sert justement que ce soit un bizarro pour dire « Ah bah, je suis fort, donc t'es faible, et puis je suis intelligent, donc t'es bête », et ainsi de suite. Et il va découvrir que celui qui a invoqué ce Bizarro Captain, c'est en fait Félix Faust, qui est en train de commettre un braquage. On retrouve, pendant ce temps, dans le ciel de Kandak, Black Adam, qui... pénètre à l'intérieur du vaisseau de nos chers dinosaures fans d'administration et de paperasse, qui évidemment ne sont pas sans rappeler cette race extraterrestre dans H2G2. Et lui n'accepte pas qu'il soit dans l'espace aérien de Kandak. Évidemment, il n'a pas la patience d'écouter leur déblatération sur leurs histoires d'administration, ce qui fait que ça va vite se régler à coups de poing. Les dinosaures vont réussir à l'éloigner en lançant un missile sur Kandak, missile qui s'avère en fait être rempli de paperasse, parce que c'est vraiment ce qu'ils savent faire. Donc c'est des paperasses qui tombent partout dans Kandak, qui bloquent même, il semblerait, la ville, en tout cas. On retrouve de son côté Shazam, Billy Batson, qui rejoint sa famille devant ce qui semble être, devant ce qui est annoncé comme la nouvelle maison de la famille Batson, qui est une énorme, magnifique maison, qu'ils vont pouvoir s'acheter, parce que voilà, ils ont économisé, et surtout, en revendant leur ancienne maison, ça va leur permettre d'avoir la somme qui va les amener à acheter cette nouvelle demeure. Sauf qu'on retrouve Mr. Tony, donc vous savez, leur tigre majordome, leur tigre anthropomorphe majordome, devant la maison, encerclé par des dinosaures qui réclament Shazam. Il va donc les rejoindre, sauf Tony d'une liquéfaction dont le menaçaient nos dinosaures administrateurs. Et ce qu'ils veulent, en fait, c'est récupérer leur collègue, qui, lui, a décidé de ne pas rentrer, qui, désormais, s'occupe de l'intérieur du rocher de l'éternité. Et donc, Shazam le défend, sauf que Black Adam arrive. Et il est colère, Black Adam, parce que ils ont foutu son pays sous la paperasse, littéralement, pour le coup. Mais, évidemment, Shazam ne peut pas le laisser non plus démolir des dinosaures. Donc, va s'interposer, combat qui va durer, et le problème, c'est que pendant ce combat, ils vont carrément détruire la maison. Et là, oui, Shazam regarde ça en mode « What the fuck ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on vient de faire ?» Parce que du coup, il vient d'ôter les espoirs de sa famille de pouvoir obtenir cette nouvelle maison. Pour ce que j'ai pensé du numéro, donc ouais, le dessin un petit peu moins bien, mais ça reste correct. Mais bon, voilà, forcément, quand on passe après Dan Mora, c'est compliqué. Je le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Après, c'est du bon Shazam. C'est encore du très bon Shazam. C'est fun. En même temps, voilà, il y a ce petit côté drame familial. Il y a plein d'idées hyper fun avec ces dinosaures toujours. Les choses sont bien amenées. C'est vraiment une série qui est très très sympa à lire et c'est un des plaisirs. Voilà, des séries vraiment qui se lisent tranquillement, qui sont fun, qui racontent des choses. Mais voilà, c'est vraiment, je le conseille en tout cas. Très très bien à suivre, Shazam.
Petit changement d'artiste pour Shazam. Dan Mora laisse sa place à Goran Suzuka. Le dessinateur a un style un petit peu rétro, un peu à la Chris Amney. Ça passe bien avec ce Shazam version Mark Waid. C'est toujours aussi cool. Il y a des touches d'humour absurdes qui sont très drôles. Le titre ne déçoit pas depuis ses débuts.
Très bon épisode, comme toujours. Alors certes, on n'a plus Dan Mora, mais le nouveau venu assure quand même plutôt pas mal. Voilà, on a beaucoup d'action, un bizarro Captain Marvel, des dinosaures de l'espace procéduriers en uniforme de Star Trek, phaser compris. Non, franchement, que demande le peuple ? C'est Shazam et c'est excellent. Et oui, forcément, Shazam, ça reste une des valeurs sûres. Et il faut noter que aussi depuis le début de la série, une autre valeur sûre, ça a été Birds of Prey. Et on va voir si ça continue avec le numéro 5 de Birds of Prey. Et c'est toi, Nico, qui nous en parle.
Birds of Prey numéro 5. Sin est capturé par Majera. Les Birds of Prey vont tenter de la sauver. Zilot se charge des quelques Amazones qui partent la route. À coups de cris soniques et de bombes, Black Canary parvient à retrouver sa sœur et elles ont une discussion forte en émotion. Alors, c'est encore un changement d'artiste, et celui-ci est brutal. Le style rétro de Romero fonctionnait à merveille, mais avec Harris Dane, on est dans un style plus statique, avec des visages qui font un peu penser à Frank Quitely. C'est beaucoup moins bien visuellement. Le scénario, par contre, il est toujours aussi bon. On a beaucoup d'action, mais il y a quelques petits moments cool. Le mal-être de Sin, les remords de Zilot, l'humour d'Harley bien dosé. Donc dans l'ensemble, c'est bien, juste dommage que l'artiste ait dû faire une pause.
Eh ben, on a encore un numéro très très sympathique de Birds of Prey. Alors, faut forcément déjà dire, il y a un changement au niveau de l'artiste. Et clairement, on change beaucoup de style. Ce qui m'embête d'un côté, parce que j'aimais beaucoup le style des quatre premiers, même s'il avait fallu s'y habituer un petit peu d'abord. Là, on est vraiment sur un cas de gros changement de style. On est vraiment sur deux styles complètement différents. Alors, c'est un style qui est très bien aussi, vraiment. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est très compétent. Ça tire peut-être un peu plus vers le manga, j'ai l'impression, mais pas vraiment exactement. Surtout au niveau des visages féminins. Vraiment, ça change beaucoup. Et la colo et tout, visuellement, c'est très différent. Mais ça reste, mais encore une fois, très compétent. Attention là-dessus. Mais par contre, l'écriture de Kelly Thompson reste toujours excellente, excellente. Donc j'aime beaucoup ça Harley Quinn, alors que vraiment c'est un personnage qui a tendance à me gonfler, mais avec Kelly Thompson ça fonctionne parce qu'elle n'en surjoue pas et elle sait l'utiliser comme elle devrait l'être. J'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi avec, je sais plus comment elle s'appelle, le personnage qui vient de Wildstorm, j'ai un trou de mémoire. Mais bon, du coup, j'aime beaucoup jouer avec elle, avec Cass, Big Barda, enfin, vraiment. Et puis, voilà, on a cette confrontation entre, déjà entre Sin et Megaera, puis Black Canary qui s'y joint, et voilà, on se demande où ça va aller, mais c'est des petits moments un petit peu drôles, réaction, genre Black Canary qui parle avec Sin, et juste cette espèce de créature, donc Megaera, comme ça, très 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 flippante, très, et qui est juste derrière à attendre, en mode, je suis là, en fait, quand même, vous êtes dans mon estomac, là, je voudrais pas vous déranger, hein, mais... Vous pouvez faire un petit peu attention à moi quand même. Donc non, vraiment, je suis très fan du travail de Kelly Thompson. Elle confirme encore son talent. Donc très bon numéro pour moi.
Et voilà, tout simplement, après avoir parlé du numéro 5 de Birds of Prey, nous allons parler d'un autre numéro 5 qui en plus commence aussi par un B, puisque c'est le numéro 5 de Blue Beetle. Et bah du coup, comme on change toujours pas une équipe qui gagne, hein, après tout on a fait numéro 5, on a fait B, et bien du coup c'est toujours Nico qui fait la présentation.
Blue Beetle numéro 5, un épisode chargé. Kimix met en garde Paco et Xiomara à propos de Bloodscarab. Starfire sent l'importance de la menace et décide de rassembler les troupes. Raimi et Victoria Korn discutent pour découvrir comment tuer un Beetle. Un flashback montre d'où provient le Bloodscarab et fait le lien avec l'histoire du premier Blue Beetle, Dan Garrett. Victoria Korn trouve une solution pour affaiblir l'ennemi, mais elle veut que ce soit Brenda qui appuie sur le bouton. Les héros ensuite affrontent le grand méchant, ainsi que quelques sbires un peu zombifiés, dans un stade de football américain. Brenda utilise l'arme anti-Beetle, mais ça a l'air d'affecter plus Blue Beetle que le Bloodscarab. Fin de l'épisode, la suite le mois prochain. Le scénariste fait monter la pression. Raimi doit assumer ses responsabilités de leader. Il a droit à une petite équipe façon Power Rangers. Les dessins sont bien cool avec leur influence manga. J'ai vraiment hâte de découvrir comment va se terminer cet arc.
Eh ben, très sympa cette série Blue Beetle, je trouve. Déjà un dessin qui est très dynamique. Très très dynamique, on l'a dit plusieurs fois, une colo assez flashy qui fonctionne vraiment bien, clairement de grosses inspirations et manga et surtout très Super Sentai. Et plus particulièrement, même plus que Super Sentai, toute cette catégorie, alors j'ai plus le nom en tête, mais vous savez, tous les Kamen Rider, les choses dans le genre, il y a vraiment de grosses inspirations là-dessus. Et sur l'écriture, j'aime vraiment bien ce que ça fait en fait, où ça amène Rémi Ries sur des à devoir faire des choix, vraiment sur des choix impossibles, jusqu'où il est prêt à aller devant une situation aussi compliquée, jusqu'où il est prêt à aller pour arrêter un vilain qui menace ses proches. Et c'est intéressant, là on est vraiment dans un cas de conflit moral pour le coup, réellement intéressant. On a aussi un petit retcon, une petite page comme ça en mode flashback avec l'ancien Blue Beetle, et je trouvais ça plutôt cool, avec un dessin du coup qui colle parfaitement au style. J'ai beaucoup aimé, dans ce que je disais justement par rapport à ce thème avec Rémi qui doit faire des choix, son échange justement avec Starfire. Mais en tout cas, ouais, et les dessins vraiment claquent, quoi. Il y a une page, par exemple, avec l'arrivée du Blood Beetle, qui est vraiment classe, avec ses espèces de mignons derrière, là, ses soldats. Enfin, non, vraiment, ça claque. Je trouve que c'est assez original à sa façon, et ça fonctionne plutôt très bien. En tout cas, plutôt bonne série.
Je vais pas mentir, hein, j'aime beaucoup, beaucoup cette série de Blue Beetle. On y joue avec la mythologie du personnage, on a même une très jolie page avec Dan Garrett, hein, le premier porteur du scarabée bleu en mode comics des années 40, et jouer avec cet héritage, en tout cas celui de Charlton et de DC, est éminemment sympathique et contribue à donner une consistance à ce titre. Tout comme son cast de personnages attachants et où tout le monde joue son rôle, comme dans la première série de Raimi Reyes, qui est sans doute ma série Blue Beetle préférée. Et cette série-là est en très bonne position pour devenir actuellement ma deuxième série Blue Beetle préférée. Elle surpasse haut la main en qualité la mini-série précédente, hein, Graduation's Day, et assez aisément, parce qu'elle peut créer des intrigues sur le temps long, ce qui ici fait des merveilles. Le dessin d'Adrian Gutierrez et la colorisation de Will Quintana donnent toujours une force au titre, dynamique sans jamais nous perdre, et c'est vraiment bien. Et en plus avec des images fortes, comme cette éclipse rouge sang du plus bel effet. Non, un très bon titre, où le scénariste Josh Trujillo a vraiment augmenté son jeu depuis Graduation's Day et ce qu'il sait faire. Mais voilà, c'est bien beau de parler toujours des gentils, hein, mais les méchants aussi, ils existent. Hein. Et d'abord, agenouillez-vous devant Zod, et bien tout simplement dans le premier numéro de la série qui s'appelle Kneel Before Zod, et bah, c'est toi Midnighter qui t'en charge, hein. Moi le monsieur me fait un peu peur.
Et qui dit début d'année dit aussi nouvelle série comics, et on retrouve cette semaine le premier numéro de Kneel Before Zod, une nouvelle série qui du coup est centrée sur le super méchant Drew Zod, et qui est Général Zod, et qui est le fasciste des Kryptoniens. On retrouve Joe Casey à l'écriture, qui est un scénariste que je ne connais pas et qui m'a plutôt convaincu sur ce numéro, avec au dessin Dan McDead, qui fait aussi un très bon travail. L'intrigue se passe sur une planète qui se nomme New Kandor, que Zod a entièrement créée plus ou moins tout seul. Et ça reste très intéressant de voir comment il gère cette planète avec sa femme, comment il gère le fait que bah, il a aussi son fils hein, biologique, qui, avec toute cette partie-là qui sert surtout à teaser la mini-série entre le fils de Zod et le fils de Sinestro qui arrive le mois prochain. Donc ça, et ça reste toujours bien sûr assez intéressant de voir que bah, Zod ne considère pas son enfant de la même façon que Clark considère John, par exemple. Donc voilà, clairement un moment où c'est clairement... mauvais père, mauvais fils, forcément. Pour le reste, c'est quand même assez intéressant de voir Zod qui veut pas devenir meilleur concrètement, qui essaie de recréer Krypton. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Enfin, une Krypton, même si ça reste Kandor. Enfin, il essaie de restaurer Kandor. Donc voilà, c'est clairement une série qui sera une mini-série en 6 ou en 12 numéros. Parce que c'est clairement un numéro qui lance une histoire avec une attaque de pirates. Et bien sûr, Zod qui va face aux différentes conséquences de ses actes. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. C'est vraiment au début qui, mon côté, m'a assez convaincu. Et je suis assez curieux de voir où ça va aller.
Eh bien, c'est un plutôt bon début de série, ce Kneel Before Zod. Franchement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec ça. Et bon, alors on a évidemment une partie qui très clairement sert d'introduction à la série à venir avec le fils de Zod et le semble-t-il fils de Sinestro. Je sais plus, alors j'ai Inglorious en tête, non, c'est pas ça. Enfin bon, donc la série avec les deux gamins. Mais j'aime assez ce Zod où on sent que il est pas au top de ce qu'il peut être. Il y a quelque chose derrière, des doutes. D'ailleurs, on voit bien que son fils lui-même doute de lui. Sa femme semble un petit peu douter de lui. Il doit faire face à certaines situations. Ça peut être intéressant. Franchement, pour un premier numéro, c'est plutôt pas mal. Voir un peu, effectivement, ce soldat sans guerre, comment est-ce qu'il peut arriver à construire. Comme le dit Jor-El, est-ce qu'il ne sait pas que détruire ? Donc, à voir où ça va aller. Le dessin est plutôt correct, rien d'incroyable, mais ça fait carrément le taf. À voir, vraiment, c'est un personnage Zod qui peut être intéressant, vraiment, je pense, sous une bonne plume. Donc, vraiment curieux de voir où cette série va aller.
Alors, franchement, à l'annonce d'une série sur Zod, j'étais pas du tout emballé. Mais la série se révèle sympathique, surtout qu'elle ne cherche pas du tout à atténuer le côté vilain de son protagoniste, et au contraire se complaît un petit peu dans la férocité et la violence. Ça va un peu vite, mais j'imagine qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place sur cette New Kandor, parce que c'est un numéro 1, tout ça, et j'ai apprécié le voyage avec un méchant qui ne cherche absolument pas la rédemption. On a beaucoup de séries sur les méchants ces temps-ci, mais assez peu sont vraiment bonnes. Hein. Je dirais vraiment que Poison Ivy là, qui est vraiment bonne en ce moment. Et donc du coup, j'espère que cette série, cette lecture hein, donc, sur Zod, sera arrivée au niveau de la série sur Poison Ivy. En tout cas, Franchement, ce premier numéro pose des fondations très solides en ce sens. Et voilà, forcément, après avoir parlé d'un ennemi du monsieur tout en bleu, eh ben, il va falloir qu'on parle du monsieur tout en bleu en lui-même, en fait. Avec tout simplement une petite série hors continuité qui se situe, en fait, dans le continuum des premiers films Superman, puisque c'est le numéro 3 de Superman 78, The Metal Curtain, et c'est toi, Sofiane, qui t'en charge.
C'est parti pour Superman 78, The Metal Curtain, l'issue numéro 3 par Venditti et Guidry au dessin. Et on retrouve donc Superman après sa confrontation avec Metallo, qui heureusement a été sauvé par un des pilotes de l'avion qui s'était crashé. Et il est conduit à bord d'un navire militaire, dont l'officier en chef n'est autre qu'un certain général Sam Lane, évidemment le père de Lois Lane, qui évidemment va tout de suite le faire remarquer. Je crois que vous connaissez ma fille. Et donc, Superman, évidemment, qui... voilà, Superman veut faire le sympa, tend la main, et non, ça ne marche pas comme ça. Sam Lane, lui, ce qu'il veut, c'est des informations, savoir ce qui s'est passé. Et Superman va lui apprendre donc voilà qu'il a rencontré effectivement... un ennemi qui et qu'il a entendu donc ce nom de Metallo. Sam Lane est affolé parce que il avait effectivement entendu parler de ce projet russe, mais qui n'était absolument pas censé être prêt, être possiblement mis en action. Il pensait qu'il avait encore du temps devant eux, mais ça n'est obviously pas le cas. Donc voilà, petite discussion avec Superman. Je vois que bon, Sam Lane, il n'est pas fan, hein, on va pas se mentir. Superman s'en va parce que Sam Lane lui demande « Mais qu'est-ce que vous foutez, en fait, dans un endroit pareil ?» Et là, Superman se rappelle « Oups, Lois !» Évidemment, ne le dit pas à Sam Lane, qu'il a oublié sa fille dans une forteresse dans le Grand Nord. Et donc, il part tout de suite l'argent. Alors, ça, c'est rigolo, parce que quand il part, du coup, Sam Lane, qui a cette petite phrase qui dit « Ouais, je vois ce que ma fille peut lui trouver, mais par contre, ne pensez certainement pas que vous avez ma permission. » Puis il met le côté qui est « Quoi ?» Il fait « Non, c'est pas à vous que je parle. C'est à lui. » Il sait très bien qu'il l'entend à cette distance. Superman va retrouver Lois. Et donc, va lui dire qu'il va la reconduire. Va lui dire qu'il a rencontré son père. Va, du coup, lui proposer de la reconduire à Metropolis. On va retrouver Metallo, qui, pour le coup, semble très, très impatient de la confrontation. Mais son supérieur lui dit déjà, le loup, t'étais pas censé engager Superman. Et ça aurait été complètement con si tu l'avais battu là. Parce que le but, c'est que les gens le voient, que tu le battes. Donc, il faut que tu le fasses ailleurs. Il faut que tu le fasses à un endroit où il y a du monde. Mais on voit que ouais, Metallo, lui, est impatient, énervé, frustré. Il veut clairement passer à l'action. On retrouve, du coup, au Daily Planet, Clark Kent, qui, clairement, ne se sent toujours pas bien. On voit qu'il voit encore le visage de Metallo. Ça ressemble plus à des PTSD que vraiment encore des effets de la kryptonite. Lois vient le chercher. Il doit aller retrouver Perry White, qui veut des informations, qui veut savoir ce qui s'est passé. Lois a des informations, mais on n'est pas sûr d'où elles proviennent. Elle a quelqu'un au téléphone. Ça reste assez mystérieux. Donc, à voir. Pour le coup, on n'a pas encore les informations. Et le numéro se finit sur quelqu'un qui va prendre un journal, se servir, ne le paye même pas. Et on va découvrir ensuite qui est ce personnage pour finir. Voilà. Un personnage important du lore de Superman qui fait son apparition à la fin de ce numéro. Ce que j'en ai pensé, c'est plutôt très cool. Franchement, j'aime assez. Donc voilà, on le sait, hein, série de comics qui évidemment s'inscrit dans la lignée des films de Donner. Et pour l'instant, l'histoire est plutôt intéressante. Je suis assez curieux de voir ça, où ça va aller. Mais ça reste agréable à suivre. Le dessin colle parfaitement, je trouve. On reconnaît en plus les différents personnages par rapport au film. Et le dessin est très efficace, avec un petit côté un peu vintage voulu, comme ça. Donc non, pour moi, franchement, très, très bon numéro. Très plaisant.
Et donc voilà, nous arrivons déjà à notre tout simplement dernier titre de ce podcast, avec le premier numéro de The Batman and Scooby-Doo Mysteries. Alors, premier numéro, mais bon, c'est le début de la troisième série qui mélange Batman et Scooby-Doo. C'est des séries qui sont en général assez amusantes et qui respectent les deux univers de façon enfantine, certes, mais succulente. Alors, on a eu jusqu'ici des séries de 12 numéros. On va voir si ce sera encore le cas ici. Normalement, c'est censé être une ongoing, mais une ongoing, ça peut s'arrêter un peu quand on veut. Et disons que 12 numéros pour une ongoing, ça s'est déjà vu. En tout cas, voilà, dans ce numéro, eh bien, c'est un cirque qui est hanté, et pas n'importe quel cirque, puisque c'est le cirque Ali. Là où Dick Grayson, en fait, le premier Robin, a été élevé, et là où ses parents sont morts d'un accident de trapèze. Une mort beaucoup plus courante qu'on ne croit dans l'univers DC. Par exemple, Boston Brand, le fantôme que l'on connaît mieux sous le nom de Deadman, est également mort d'une chute de trapèze. Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisque le fantôme du jour qui semble hanter le cirque, eh bien c'est Deadman lui-même. Sauf que tout le monde le voit, ce qui n'est pas normal, parce que normalement c'est un spectre qu'on voit pas et qui peut pas interagir avec le monde normal et qui est censé choper les corps des gens pour pouvoir prendre le contrôle et pouvoir espérer toucher des petites choses et pouvoir discuter. Là, c'est un monstre à la Scooby-Doo. Donc du coup, il y a clairement quelque chose qui cloche. Et qui cloche encore plus parce que Deadman, apparemment, il est un peu méchant. Deadman, il essaye de tuer un des trapézistes qui s'appelle Zoltan. Puis il y a une petite fille qui est en danger suite à tout le remue-ménage. Mais forcément, Nightwing, il sauve tout le monde. Parce que, bien sûr, pendant que le Scooby-Gang, il est dans le public pour enquêter, ça nous permet, dans le numéro, on va de nous présenter tous les suspects éventuels. Et je vais vous donner une petite liste, histoire de que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble un numéro Batman Scooby-Doo. Alors, on a Adolfo, le partenaire du trapéziste, qui semble avoir été assommé en coulisses pendant le spectacle. On a aussi les deux frères du cirque Dingalus qui souhaitent racheter le cirque Ali. Enfin, voilà, c'est des suspects classiques. Et classique, c'est le mot, parce que certes, on a quelques péripéties qui filent quelques indices, pas forcément dit clairement, disons qu'à partir d'un certain âge, on sait faire 2+2, clairement. Mais c'est assez cool parce que du coup, le lecteur de tous âges, il peut trouver la solution avant que la solution soit donnée à la fin. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce genre de série, c'est interactif, quoi. Et bref, c'est Nightwing qui prend le rôle du trapéziste avec le reste du Scooby Gang qui remplace le reste des artistes de cirque. Il y a pas mal d'actions cool. On a Daphné qui accompagne Nightwing au trapèze, Fred en escape artist, vous savez les artistes de l'évasion, Vera qui joue les Monsieur Loyal. Et je vous donne pas la fin, mais ça passe. On a même une petite surprise au final, une surprise que j'avais pressentie. La preuve que ça te donne des indices et ça joue avec toi. Bref, c'est un bon petit comics dans la droite lignée de ce que la série a été jusque-là, du respect des univers avec un ton enfantin qui peut plaire aux enfants et aux plus grands enfants. Voilà. Et oui, Batman Scooby-Doo, c'est possiblement un petit remplaçant pour les petits bonbons de fin de série. Parce que, sur certains podcasts, on n'a pas toujours nos petits mangas habituels, Superman vs. Meshi, Joker, One Operation Joker... Voilà, donc parfois ce sera du Batman Scooby-Doo. En tout cas, voilà, ce numéro est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Sachez que le prochain numéro ne sera pas en télépodcast. En fait, là, les épisodes en télépodcast vont être plus rares. Et les épisodes vont être plus longs, mais aussi en live. Et donc, du coup, peut-être un peu plus interactifs. On peut peut-être être un peu plus taquins les uns envers les autres. Mais ça fait partie, je pense, du charme de notre format. Et on vous dit à la prochaine fois. Et puis, salut!
À très bientôt tout le monde!
Salut!
Et il faut aller à l'essentiel, et il faut aller à l'essentiel et il faut tailler dans le gras.